Robert Blondin ici. Bienvenue à l'aventure. Avec nous aujourd'hui, Gilles Labelle. Savez-vous ce qu'il fait comme métier? Il livre des repas à des enfants. c'est vrai, ouais, c'est vrai que Gilles fait ça.
Mais, c'est mon gym.
Oui, mais il n'a pas fait ça toute sa vie.
Non.
Parce que des repas, il les a pas toujours livrés. D'abord, il les a mangés.
Plus. D'abord.
Ah, d'abord. Gilles, tu as une carrière de radio. Hein, on a des métiers semblables.
Oui,
je n'ai Moi, je l'ai fait ça. En radio publique, tu l'as fait en radio privée, puis ouais. Ensuite communautaire et tout. Ouais. Comment tu as commencé ça? Avais-tu toujours le goût de faire la radio jeune, toi?
Mais étonnamment, non. J'ai entendu tellement de gars et de filles raconter qu'ils avaient un studio dans leur sous-sol. Là. Un, on n'avait pas de sous-sol. Ce qui fait que ça te coupait le goût de faire de la radio dans le sous-sol. Mais non, j'ai jamais pensé faire de la radio. Et quand le cours classique a été abandonné par le ministère de l'Éducation, moi, j'étais en plein dedans, et ils nous ont coupé ce cours, et il fallait que je termine ça rapidement et que je fasse autre chose. Et j'avais pas la moindre idée de ce que j'allais faire dans la vie. Et je m'en étais ouvert à mon frère plus vieux qui, lui, s'en allait vers l'enseignement. Puis moi, l'enseignement, j'ai pas la patience pour ça, pas deux secondes. Et mon frère me dit, un dépliant, l'Académie nationale des annonceurs, je m'étais intéressé à ça, moi, puis finalement, j'irai pas, peut-être que toi, ça pourrait t'intéresser. Et finalement, je dis, c'est pas une méchante idée. Écoute, c'était la première fois de ma vie que j'entendais parler de ça. Et mis à part les avis de décès à la radio que ma mère écoutait quand j'étais petit, j'ai aucune notion de... Et les joyeux troubadours écoutait aussi. Alors, et puis je suis allé, puis je me suis inscrit avec M. Robert Germain, qui était le directeur de l'école. Et c'était au Palais du commerce. Ça durait un an avec les examens du ministère de l'Éducation. C'était sérieux, là. Alors,
On étudiait quoi, là?
On étudiait... on avait des cours de diction, des cours de phonétique, des cours de pose de voix, et on apprenait le bon ton. Alors, quand Robert Germain nous donnait un texte de la soupe Campbell, et que... tétanisés et traumatisés que nous étions de lire en groupe une quinzaine de gars et de filles autour, avec Jocelyne Cazin, qui faisait partie de mon groupe, tiens. Il fallait lire le texte devant tout le monde. Écoute, on voulait mourir. Et là, on était dans 15 beaux légumes, là, tu sais. Puis Robert Germain qui explosait. 15 beaux légumes, des beaux légumes. Alors, c'est ce qu'on apprenait à avoir. Et plus tard, quelqu'un un jour m'a demandé... ce que je faisais en donnant de la formation, parce que j'ai fini avec le temps par donner de la formation, devenir formateur en radio. Je le suis encore un peu d'ailleurs, même si je suis retraité. Et je disais, je leur apprends juste à avoir les mots pour le dire. C'était aussi simple que ça. Alors, puis, bon, à la fin des études, les deux gars sont partis dans des stations de radio dans le Nord-Est, Gilles Sénécal et François Paré, qui ont travaillé chez Coallier par la suite et à Radio Classique. Et moi, je suis allé tout de suite après. Le directeur choisissait qui allait où, là. Alors, il y a eu une demande, et c'était pour Ville-Marie au Témiscamingue.
Ça ouvre une porte, puis je veux que tu m'en parles. Parce que, OK, on va en parler de tes débuts, là, à Ville-Marie. Faire de la radio, là, si tu peux pas être nomade, tu peux pas commencer à faire de la radio.
Effectivement, et bon, y a encore des gens, y a encore des gens qui le font aujourd'hui. Moins peut-être qu'il y a 40 ans. J'ai commencé à faire de la radio en 1970. Mais j'ai fait 2 ans à Ville-Marie, je suis allé à Sorel 4 ans, je suis revenu 2 ans à Ville-Marie, je suis allé 1 an à Drummondville, je suis revenu à Sorel, puis après 15 ans là, de 3-4 ans ici, 3-4 ans là, j'ai fini par aboutir à Montréal en 1985 à CFGL. Alors, mais tu vois, les 15 premières années de ma vie...
Mais c'était pas fini parce que tu as été aux Escoumins après.
Ah puis oui, j'ai travaillé à CFGL, travaillé par la suite à CKBL. C'est quoi? J'ai travaillé pour Jean-Pierre Coilier pendant 9 ans à CIM, dans les Laurentides, à Ciel, à Montréal.
On n'a pas toujours le savoir hein, que c'est un métier comme cela, c'est contrairement à moi qui ai travaillé dans la radio publique où c'était très, très différent. Là, c'était statutaire, installé, sédentaire. Ouais. Mais j'ai connu plein, on appelait ça des radiobombes à l'époque, te souviens-tu de ça?
Oui.
Des gens qui allaient de station à station. Qu'est-ce qui faisait à cette époque-là qu'on changeait si facilement de station?
Ben, écoute, en même temps que moi, j'ai changé souvent de station, puis plein d'autres l'ont fait aussi, j'ai aussi connu en région plein de gars et de filles qui sont restés là toute leur vie. Qui ont commencé à Sorel, à CJSO, à 18, 19 ans, 20 ans, puis qui ont pris leur retraite en étant toujours animateur à Sorel à 60 ans. À Drummondville, quand j'ai travaillé à CHRD à Drummondville, les gars qui étaient là depuis 20 ans, 25 ans. Moi, au bout de 3-4 ans, j'avais l'impression que j'avais fait le tour de la question et que j'avais le goût de faire autre chose. Heureusement, j'avais une femme qui aimait ça bouger. Alors, puis j'ai eu des enfants. Je me suis calmé quand les enfants ont commencé à aller à l'école. Oui, j'ai changé de job, mais je voyageais. J'habitais Montréal. J'ai travaillé 3 ans à CIM dans les Laurentides. J'ai travaillé 3 ans à Joliette. J'ai travaillé 3 ans à Ciel à Longueuil. Mais je vivais à Montréal. Je voyageais, là, tu sais. Mais je voulais vivre autre chose, faire autre chose, rencontrer d'autres gens, vivre d'autres expériences. Et c'est, je ne l'explique pas chez les autres, mais je me l'explique comme ça.
Revenons, Gilles, à ton premier poste à Ville-Marie.
Ouais.
Il n'y a pas un de nous qui avons fait ce métier-là qui n'a pas une anecdote pour raconter ses débuts.
Ils me l'ont demandé cette semaine parce qu'ils vont fêter les 70 ans de la station. Et j'avais 2 anecdotes. Puis j'ai pensé que je pouvais pas la raconter, leur raconter ça aux gens du Témiscamingue. En 30 secondes, la première, c'est la première fois que je lis un avis de décès. Il y a une erreur dans l'avis de décès. Moi, je peux pas le savoir. Là, il y a un nom qui a pas bien été. L'erreur du salon funéraire ou de la famille, peu importe. Mais le directeur de la station de radio... qui est dans son bureau, on est tout seul tous les deux à l'heure du souper, rendu à 18h, l'heure des avis de décès, on est 2, lui et moi, le petit nouveau et le directeur. Et là, je lis, et pendant que je lis, tout d'un coup, je l'entends, il s'en vient dans le corridor. La porte est ouverte, j'aurais dû fermer la porte. La porte est ouverte et je l'entends s'en venir dans le corridor en gueulant puis en tempêtant. Je pense qu'il avait pris un apéritif. Et là, il gueule, là, mais je suis en onde, parce que je suis en train de finir de lire l'avis de décès, puis j'en ai un autre. Et là, qui a fait cette erreur-là, puis ça n'a pas de bon sens de se tromper comme ça dans un avis de décès? C'est qui, ce petit maudit nouveau-là, qui n'est pas capable de lire comme du monde? Mais j'entends tout ça dans mes écouteurs, moi, là. Mais je suis en onde pendant ce temps-là. Et quand il a finalement mis le pied dans le studio, il s'est rendu compte que je lisais encore en onde, puis que la petite lumière rouge était allumée, là, tu sais, ça existait déjà. Alors, il s'est tué rapidement, puis il a viré de bord, là, tu sais. Puis là, j'ai fini par dire aux gens, écoutez, il semblerait qu'il y a une erreur dans un des avis de décès que nous avons lu ce soir. Je vous reviens dans quelques minutes, là, tu sais. Alors, ça a été une de mes premières expériences de radio d'avis de décès. L'autre expérience, ça n'a rien à voir avec la radio, c'est qu'on amenait des filles dans le studio le soir pour écouter de la musique, mais qu'on le faisait à la chandelle, évidemment, parce que...
Ça s'écoute tellement mieux.
Ça s'écoute tellement mieux. Et puis, la chandelle a fini par tomber, puis les petites enveloppes de 45 tours, le feu a pris dans pile d'enveloppes. Ils ont passé 2-3 jours à se dire dans la station. C'est bizarre, hein? Il y a comme une odeur de brûlé dans la station depuis quelques jours. Ils n'ont jamais su comment ça se fait. On a éteint le feu, monsieur.
Ça, c'est un autre aspect, Gilles. Quand on fait ce métier-là, j'en ai fait une partie, mais c'était plus dans les radios d'État, là. On fait toutes sortes d'émissions, toutes sortes de rôles de radio là-dedans.
Oui, moi, quand j'ai été engagé, soit dit en passant, quand je suis allé travailler à Ville-Marie, au Témiscamingue, en 1970, j'allais remplacer un gars de la place, de Lorainville, qui quittait la station pour aller dans une station de radio du nord-est ontarien et qui finalement a abouti à Montréal, c'est Jacques Clermont, qui a travaillé à Radio-Canada pendant des années, qui a été la voix d'identité de la télé de Radio-Canada pendant des années et des années. On s'est revus.
Et qui a enregistré, c'est maintenant disponible au canal Vues et Voix, que vous écoutez en ce moment, okay. Qui a enregistré un de mes romans qui s'appelle « 7 degrés de solitude ouest ». Et j'ai demandé il y a quelques semaines à Jacques
Clermont de l'enregistrer. Alors, c'est lui que j'ai remplacé lors de mon premier emploi en radio. On s'est revus pendant plusieurs années et lors de ma dernière job à temps plein en radio jusqu'en 2015, début 2016, à CIBL à Montréal, Jacques est venu. J'ai demandé à Jacques de venir rencontrer des stagiaires à CIBL pour leur donner une formation sur la lecture, la voix, etc., etc. Alors, tu vois, comme ça, c'est... Écoute, il faut que je te dise aussi, parce que c'est suave, mon frère prend sa retraite de l'enseignement après avoir été prof. C'est lui qui m'avait donné le dépliant pour faire de la radio, là. Alors, il passe sa vie dans l'enseignement, il termine sa carrière comme directeur d'école, merveilleux, et là, il se dit « qu'est-ce que je pourrais bien faire pour m'occuper à la retraite? » Et il a une amie qui est spécialisée en orientation de carrière, et il va passer des tests, et finalement, les résultats, c'est elle lui dit « tu pourrais travailler en communication. » Écoute... Ça ne s'invente pas. Il ne l'a pas fait, là, mais en fait, ce talent-là, cette capacité-là qu'il avait déjà au moment où il avait pris le dépliant de l'Académie nationale des annonceurs, il l'avait toujours à la retraite.
Qu'est-ce qui fait, Gilles, que quand on met le pied devant un micro, on y reste?
Bon, je sais, c'est l'amour de partager, c'est l'amour de la passion d'échanger. Moi, j'ai tellement eu de plaisir de faire de la recherche, de passer dans le temps au travers de la presse au complet pour trouver des bas de page, des petits coins des nouvelles de rien, dans l'actualité, des petits trucs de pas grand-chose qui disent que il y a 20 ans, on était... 3,5 personnes par maison, alors qu'aujourd'hui, on est à 2,5 personnes par maison et que les maisons, dans le temps, avaient 1095 pieds carrés et qu'elles en ont maintenant 1595.
Ouais, t'as besoin,
toi. Oui, parce que la vie a changé. Alors, c'est le genre de truc que tu dis, ah, ça va être la fun à raconter aux gens. Ça va être plaisant à raconter. Mais écoute, il faut que je dise aussi qu'en Radio AM, pendant les premières années, jamais personne ne m'avait imposé de limite de temps. On faisait de la recherche, on avait le goût de jaser, j'ai été chroniqueur sportif, j'ai fait des descriptions de matchs de hockey dans ma vie.
T'as tout fait ça?
Ah, j'ai fait ça pendant plusieurs années. La Ligue junior majeure du Québec, les Éperviers de Sorel, au Forum de Montréal, au Colisée de Québec. On partait sur la route en fin d'après-midi, un technicien. Moi, je faisais la description, puis j'avais un analyste avec moi. Puis on allait décrire les matchs de hockey. J'ai fait de la description de compétition de natation, mais j'ai aussi fait de la musique classique. Écoute, mais on n'avait pas de limite. La première station de radio pour laquelle on m'a dit, Gilles, tu dois parler pendant 50 secondes, 55 secondes, 3-4 fois l'heure.
Pas plus que ça.
Pas plus que ça. Et des petits 15 secondes, 10-12, 15 secondes ici et là. C'est à CFGL, Rythme FM à Laval, mais ça faisait 15 ans que je faisais de la radio et on m'avait jamais dit, tu te limites là. Mais c'est à partir de là que j'ai vraiment apprécié ce que j'étais comme animateur de radio. Parce que
avant,
t'es obligé de... c'est un spectacle. La radio, c'est un spectacle. Alors, tu fais un show de 50 secondes. Il faut donc que tu apprennes à partir solide, à être intéressant. Il faut que tu aies un punch à la fin. Il faut que tu gardes mais tu as 50 secondes. Alors, et ça, j'ai trouvé ça... aussi captivant que ce que je disais dans le sens de...
Le fait qu'on travaille, qu'on a travaillé beaucoup avec un casque d'écoute, ça veut-tu dire qu'il y a une partie narcissique à ce métier-là, à s'écouter?
En fait, on a commencé à porter un casque d'écoute à partir du moment où il a fallu qu'on parle pendant des blocs publicitaires. Avant, on n'en avait pas besoin. La musique se terminait, puis on ouvrait la clé, puis on parlait. Puis quand on allait... Ou quand on avait, comme moi, je me souviens, quand je travaillais à Ville-Marie, au Témiscamingue, on présentait des extraits sonores du film, des films de la semaine au cinéma Ville-Marie. Là. Bon, ben alors, il y avait des 30 secondes que le cinéma nous fournissait. Alors là, j'annonçais le Ben-Hur au cinéma, et là, je partais la trame sonore. Mais tu sais, il fallait que... Avec une paire d'écouteurs, c'était mieux, là. Mais
dès qu'on
a commencé à se mettre
sans...
des écouteurs sur les oreilles, on s'en passe plus.
On travaillait sans technicien, il fallait balancer, il fallait équilibrer le son.
J'ai rarement travaillé, moi, en radio commerciale, avec un technicien à Ciel, sous Jean-Pierre Coallier. Oui, on avait un technicien, mais rarement. Puis pour le rythme de l'émission, pour la présence, moi, j'ai toujours aimé mieux être derrière la console. Il me semble qu'on est capable de donner son propre rythme à une émission quant aux enchaînements, quant à la façon d'embarquer sur la fin ou au début des chansons, sur l'intro, etc. Moi, j'ai toujours aimé mieux...
Mais c'est le métier qu'on a exercé à l'époque. Maintenant, c'est devenu un métier parfois qui est extrêmement payant, qui s'appelle les DJ. Ils font exactement ce qu'on faisait, mixer des disques, présenter des disques.
Oui, tout à fait.
C'est
et
pas autre chose.
Ce sont les humoristes, très souvent, et les comédiens qui sont devenus des animateurs de radio dans beaucoup de stations maintenant.
Avant, on pouvait devenir un petit peu vedette en faisant de la radio. Maintenant, il faut être vedette pour faire de la radio.
Oui, exactement. T'en plais ça. On réussissait à être vedette en région.
C'est avec un petit V, hein?
En région.
Très petit V.
Une petite fille qui t'attendait à la fin de ton émission. Écoute, dès ma première job, moi, à Ville-Marie, il y a une petite fille de l'école qui venait s'asseoir en fin d'après-midi sur le calorifère dans
c'est
le studio.
C'est défendu d'un couvent, ça.
Puis elle venait écouter la musique, disait-elle, tu sais. Écoute, Jacques Clermont m'avait dit, « Oui, Jacinthe, on la connaît, c'est une petite fille qui aime la radio. » Elle vient me voir pratiquement tous les jours, chantonner, la musique, puis tout ça. Si ça te dérange pas, laisse-la aller, là, tu sais. Alors, Jacinthe est venue s'asseoir. Jacques Clermont n'était pas là, mais il y avait un animateur de radio. Jacinthe venait s'asseoir. Au bout de 3 semaines, elle commençait à me dire « je t'aime », tu sais.
Aurais-tu aimé ça, avoir une plus grande notoriété, devenir une vedette comme ils le sont maintenant, puisqu'ils sont déjà des vedettes à la radio ou à la télévision?
Non. Et puis c'est pas parce que je l'ai pas été que je dis non. C'est parce que je suis quelqu'un, je dis ça, puis les gens ont l'habitude de se tordre de rire, là. Je suis quelqu'un de gêné de nature. Comment tu peux être animateur de radio et être gêné de nature? Oui, mais dans son studio, là, seul avec son microphone, là, on peut être gêné tant qu'on veut, ça me dérange. Mais non, pas du tout. J'ai jamais été même à l'aise et j'ai jamais été à aimer interviewer des vedettes, gagnants. J'ai jamais aimé ça, vraiment. Alors moi, c'est pas mon genre. C'est pas...
Qu'est-ce que tu préférais comme animateur de radio? À faire comme ce type d'émission?
En fait, un mélange de divertissement et d'information. De donner des informations pertinentes. Quand je travaillais à CMFM dans les Laurentides, on n'avait pas de salle de presse, il n'y avait pas de journaliste. Alors, on donnait de l'information sur le quotidien, sur la vie, sur des organismes. Je faisais des petites entrevues de 3 minutes avec des gens qui dirigeaient des organismes et qui offraient des services. Alors, ça, avec de l'info communautaire, avec des informations qui sont... comme ce dont je te parlais tantôt, la grandeur des maisons qui a doublé, puis le nombre de personnes qui a diminué, des petites choses, OK, intéressantes, là, tu sais. Alors ça, j'ai beaucoup aimé faire ça, et j'avais du plaisir à être en onde et à surprendre les gens, et j'avais plaisir à dire, à leur parler comme... Enfin, je pensais à des gens que je connaissais. Je disais, bon, je suis allé le voir le film hier soir, je vous connais, là. Je sais que ce film-là, ce sont les paysages fleuris que vous avez aimés dans le film. Alors, j'avais toujours des retours.
Est-ce que tu t'ennuies de la radio maintenant que tu n'en fais plus?
Tu sais, j'ai été animateur de radio pendant 25 ans. Et j'ai été par la suite directeur de station de radio, formateur, etc. pendant une vingtaine d'années. Mais pendant ces 20 années-là, j'ai toujours continué de faire du microphone pour enregistrer des pubs ou des trucs comme ça. Et encore aujourd'hui, je fais de la narration, j'enregistre des infopubs, je fais des trucs pour le web. le fait de parler et de le faire devant un microphone, que ce soit ici, que ce soit ailleurs, Vues et Voix ou CIBL ou ailleurs, c'est, j'ai du plaisir à être devant un microphone, mais la radio comme telle en soi, là, ouais, la gang, écoute, la famille, c'est certain là, tu sais, que c'est intéressant, mais tu te crées d'autres amitiés, d'autres lieux, là, tu sais. Je peux pas dire vraiment que je m'en ennuie, mais j'ai beaucoup aimé.
Gilles Labelle, un complice de radio. Complice, parce qu'on a été complice dans tout ça, dans CIBL. Et de toute façon, quand on fait ce métier-là et qu'on vieillit un peu, on est tous un peu solidaires les uns des autres.
Oui, hein, tout à fait.
C'est une engeance. Ton enfance, tu viens d'où, toi?
Né à Montréal, sur Saint-Denis, à deux portes de chez Clermont Motors. Le concessionnaire automobile qui n'existe plus maintenant.
Non.
Mais Clermont Motors était connu.
Ça appartenait pas au père de Trudeau, ça?
Je sais pas.
Il me semble que
mon père travaillait là. Et par la suite, il est allé travailler pour Studebaker. Alors, et on a déménagé sur la rue Chambord, au coin de Laurier, là. Enfin, ou à peu près, près de chez Chèvre-Fils, l'épicerie. Alors, et après, j'avais 7 ans. On est allé vivre en campagne à Pont-Viau. Mais en 57, à Pont-Viau, c'était à la campagne.
Je suis arrivé à Cartierville, moi, dans ces moments-là, puis il y avait des vaches en arrière de chez nous, là.
Ben, c'est ça. Ben alors, le 102 boulevard des Laurentides existe toujours. Et j'ai vécu là de l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 19 ans, alors que j'ai quitté pour aller faire de la radio à Ville-Marie, au Témiscamingue.
Des parents faisaient quoi?
Mon père travaillait dans le domaine de l'automobile. Il était responsable d'un territoire de vente, s'occupait des concessionnaires.
Un vendeur de chars?
Non, il vendait en fait des chars, mais aux concessionnaires. Il s'assurait que les concessionnaires de son territoire avaient suffisamment d'inventaire. Alors, ce qui fait qu'on avait, nous, une Studebaker de l'année tout le temps. Il changeait d'auto à peu près tous les mois pour éviter de mettre du millage dessus.
Ça, c'est Studebaker, c'est l'auto qu'on ne savait pas si ça avançait ou ça reculait.
Oui, exactement. Ça avait l'air du devant ou du derrière, on n'était pas sûr. Alors, ma mère était une femme à la maison. Alors, et,
nombreuses familles? Ou...
4 enfants. On est 3 gars et une fille. Et la mère de mon père, ma grand-mère maternelle, vivait avec nous. Alors, on était une petite gang de 7.
Enfance heureuse ou...
Ah, tout à fait.
Ta enfance grand-mère n'était pas alcoolique et masochiste ou sadique, non?
Non, 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 non,
ou
pas
sadique,
de problème, non. Tout allait bien. Une mère malade, ça nous a compliqué davantage l'existence à elle qu'à nous, tu me diras. Ma mère était épileptique. Alors, tu peux mettre deux tranches de pain dans le grille-pain, là, puis fermer les petites portes, là. Puis là, tu fais une crise d'épilepsie, tu sais. Mais là, le feu prend dans le pain, puis... Il y a un pompier qui finit par arriver dans la maison chez vous. Alors, ma mère était épileptique, mais elle l'a été... Puis la maladie, tu sais, c'est une maladie de gens stressés, ça, là. De gens qui vivent du stress, et le stress empiète sur la maladie. Alors, il suffisait qu'elle sorte pour que ça la stresse de peur d'être malade. Et effectivement, elle l'était.
Est-ce que tu as dit une famille qui respecte beaucoup les traditions québécoises, le Noël, etc., la dinde.
Oui, bon, oui, oui, oui. Puis comme la grand-mère paternelle vivait chez nous, bien Noël, le jour de l'an, Pâques, les parties de piscine, c'était toujours chez nous. C'était toujours chez nous, puis on avait une grande maison. Alors, il y avait de la place, puis c'était... Je pense pas être allé à l'extérieur de chez moi plus que 2-3 fois dans la vie pour les fêtes de Noël et du jour de l'an.
Comment ta famille a réagi quand t'as embrassé la carrière de la radio?
Écoute, mon père bougonnait un peu au départ parce que... Et là, quand je dis ça à un gars de radio, tu sais, ou à une fille de radio, quand j'ai dit à mon père que j'allais m'inscrire à l'Académie nationale des annonceurs pour devenir animateur de radio, on disait annonceur dans le temps, on disait pas animateur.
C'est sûr.
Annonceur. Mon père m'a dit, écoute bien, là, écoute, ça n'a pas de bon sens ton affaire, là. On ne gagne pas sa vie à faire jouer des disques. Écoute. Et... Là, il trouvait que ça prenait... Écoute, à la fin du cours, à la fin de juin, ça a pris 5-6 semaines là, avant que le hasard a voulu qu'il y ait 5-6 semaines qui s'écoulent entre le moment où j'ai fini mes études et l'appel de Ville-Marie pour aller travailler au Témiscamingue. Et là, mon père s'impatientait un peu en disant, écoute, là, il faut que tu travailles, là. Je veux dire, toutes tes études sont terminées. Puis là, je disais, ouais, mais là, c'est parce que il faut attendre que les jobs, le début de la saison, septembre, que les jobs arrivent. Puis je te le dis, là, je vais aller travailler en région, c'est certain. Témiscamingue, Abitibi, la Gaspésie, je ne sais pas où, là. On commence en région, là. Et là, écoute, c'est effrayant de dire ça, mais je le dis. Mon père me dit, écoute, moi, le plus loin que je suis allé au Québec, c'est au Témiscamingue. Passé, après Saint-Édouard-de-Fable, là, tu tombes, il n'y a plus d'asphalte, là. Tu tombes sur la Garnotte, là. La station de radio, là-bas, elle doit s'appeler TROUTRO, Témiscamingue. Quand Robert Germain me téléphone pour me demander de descendre à Montréal, à l'Académie, puis il me dit, écoute, il y a deux jobs de disponibles. Jean-Pierre Hainaut, qui a fait sa carrière dans le sport au droit à Ottawa toute sa vie, là. Jean-Pierre et toi, choisissez. Il y a une job à Mutuelle à Sherbrooke, Radio Mutuelle à Sherbrooke, puis une job à Ville-Marie au Témiscamingue. Moi, je me suis dépêché de dire, « Je m'en vais à Ville-Marie au Témiscamingue. » Tu sais, la confiance en soi. Je trouvais que Mutuelle à Sherbrooke, c'était gros. Finalement, pour Jean-Pierre, ça n'a pas fonctionné. Mais quand je suis revenu à la maison, puis que j'ai dit à mon père, « By the way, je commence à travailler dans 3 semaines à TROUTRO au Témiscamingue. » C'était pas ça, évidemment. C'est CKVM, Ville-Marie. Mais mon père avait un concessionnaire Studebaker à Fabre. Et c'est pour ça qu'il allait une fois par mois en Abitibi-Témiscamingue. Il connaissait. Puis M. Gagnon, le propriétaire du garage, était membre du conseil d'administration de la radio.
Aucun rapport avec ce que tu viens de dire, mais la découverte de l'amour des femmes, la sexualité, tout ça, c'est arrivé tôt dans ta vie?
Je me souviens encore de Madone Baum, qui fut un amour imaginatif du temps de mon secondaire et de mon cours classique. Une très grande amie à moi, Jocelyne, que j'ai retrouvée sur Facebook il y a quelques mois, on a fait notre cours classique ensemble. Mais vraiment, le premier amour, c'est au Témiscamingue. C'est celle qui est devenue ma femme. Et c'est celle avec laquelle j'ai eu 2 enfants. Et c'est celle qui, malheureusement, est décédée d'un cancer
ça, je voudrais
à
qu'on
l'âge
en parle
de 37 ans, 38 ans.
Dans ta vie, ça a été un moment extrêmement important qui t'a profondément marqué pour le restant de tes jours.
Cette semaine, j'ai envoyé un petit mot à une jeune fille qui s'appelle Annie, parce que c'est son anniversaire, et je disais à Annie, mes deux fils et moi, on va toujours garder de toi un merveilleux souvenir, parce que Annie est devenue une gardienne pour mes garçons pendant que ma femme était à l'hôpital. Ma femme, qui se prénommait Aurore, a été à l'hôpital pendant pratiquement 1 an avant de décéder, et moi, il fallait que je travaille, il fallait que je fasse... Puis je faisais de la radio, là. Je travaillais à CFGL à l'époque, à Laval. Je voyageais Sorel-Laval parce qu'on ne pouvait plus déménager. Elle avait des soins à l'Hôtel-Dieu de Sorel. Elle avait des examens. Alors, je voyageais. Et là, ben, ça me prenait quelqu'un à la maison pour les enfants parce qu'elle était à l'hôpital plus souvent qu'autrement, là, tu sais. Alors, non, ça a été... Écoute, tu regardes ce que tu as vécu après, puis tu dis, voyons, comment on fait pour passer au travers de ça.
Mais quand tu es dedans, mais comment t'as fait?
T'as pas le choix. Quand tu es dedans et tu as 2 enfants, écoute, mes fils avaient 10 ans, 12 ans, quand leur mère est décédée. Puis fort heureusement que je les ai eus, dans le fond, parce que c'est eux qui ont fait en sorte que je me suis pas... j'avais pas le temps de m'apitoyer sur mon
décès. Mais tu devais assumer non seulement ta peine à toi, mais la peine des deux fils, là.
Oui, puis je devais surtout pas montrer la mienne, parce que là, dès que j'avais l'air de pas trop être dans mon assiette, les gars s'inquiétaient, puis ils me scrutaient le visage en disant, « Bon, il va-tu faire pareil, lui-là, là? » Tu sais, c'est comme... Alors, ça a été une année... écoute, mon frère Claude... journaliste sportif au Journal de Montréal. Ma femme est décédée le 4 septembre et sa femme est décédée le 4 octobre de la même année, là, 1 mois plus tard. Alors, tu imagines le genre d'année qu'on a vécue. Elle aussi décédée d'un cancer, du cancer du sein. Alors, c'est... Non, non, ça a été une histoire de fou. Et là, c'est quoi? Mais, ça fait plus de 30 ans qu'elle est décédée. Mais mon fils Marc-Étienne, mon plus vieux, et moi, on en parle le plus jeune. Il était
moins conscient de ce qui se passait.
Mais non, ça marque, ça change une vie. Et ça fait en sorte que ton petit bobo du matin de ton 60 ans passé, là, ben, il te dérange moins parce que tu dis, garde, merci la vie, là, je suis encore là, moi, là. Je suis encore là. Et tout ce que j'ai vécu depuis 30 ans, elle ne l'a pas vécu, là, tu sais.
Comment t'as fait pour passer à travers ce deuil? Ça n'a pas dû se faire du jour au lendemain, là.
Non, j'avais j'ai une famille et j'avais une belle famille, ma belle-mère, mes beaux-frères et belles-sœurs, les frères et sœurs de ma femme ont été d'un soutien moral excellent. Mais j'étais à Sorel à l'époque. J'étais loin de ma famille. Personne de ma famille vivait à Sorel. J'ai une tante qui a été très près de moi et très près de ma femme aussi. Ma tante Annette, que tout le monde connaît de ma famille et qui vit encore, elle a 95 ans. Ma tante m'a été d'un grand secours. Et puis des amis au journal. Je travaillais au journal Les Deux Rives à Sorel aussi, en même temps qu'à la radio. Alors, l'obligation que j'avais de faire attention à mes deux gars, il fallait que je me botte le derrière. Et puis je me suis toujours dit que, même si certains pourraient en rire, qu'à partir de ce temps-là de la vie, c'est comme si c'était elle qui s'était occupée de ma vie amoureuse. J'ai été gâté par la suite. J'ai rencontré des femmes formidables avec qui j'ai vécu. Et j'ai beaucoup de plaisir à dire que c'est ma femme qui s'est occupée du dossier, finalement. Elle s'est arrangée pour que j'aie dans la vie, après elle, des gens merveilleux, des femmes merveilleuses.
Avec qui tu as vécu d'assez avec, longtemps?
Ouais, ou... Oui, j'ai vécu pendant quelques années. Écoute, ma femme est décédée en septembre et par le plus grand des hasards, à l'anniversaire de mon frère à la fin novembre, il y avait une fille qui était là, qui était la sœur de la blonde de mon frère. Elle était là pour rencontrer un autre gars et puis finalement, et elle et moi, on s'est trouvés extrêmement intéressants. Mais y a-tu quelque chose dans la vie que je voulais pas? Deux mois, trois mois après le décès de ma femme.
Oui, absolument.
Je voulais pas, il n'y en était pas question. D'autant plus que c'est le genre de truc que tu dis, ça va foirer ça aussi, comme toute l'année qu'on vient de vivre. Non, non, regarde, je m'occupe de mes gars, puis la paix, là, tu sais. Mais finalement, parce que c'était la sœur de ma belle-sœur, ma nouvelle belle-sœur, je l'ai revue à quelques reprises, et l'année suivante, les gens, on me disait, arrête, là. Ça ressuscitera pas personne que tu restes tout seul dans ton coin. Et puis, ça tue pas personne que tu rencontres quelqu'un d'autre.
Et tu te sentais pas coupable de...
Oui, je me suis senti coupable même, parce que le temps... Je m'étais aussi mindé pour me dire, regarde, écoute, avec deux enfants, là, de 10 ans, 12 ans, j'en ai pour 5, 6, 7, 10 ans, moi, là, à m'occuper de mes deux gars, là. Puis après, je referai ma vie, comme on dit, là, tu sais. Ben non, l'année suivante, on était une famille reconstituée.
Tes enfants ont bien accepté cette nouvelle partenaire?
Mon fils le plus vieux est en amour avec elle.
Ouais, ouais.
Mais tu sais, il faut savoir que l'année précédant son décès, ma femme n'a pas été là pendant pratiquement un an. Elle était à l'hôpital. Les enfants, Dieu merci, la capacité d'adaptation des enfants, ils se sont habitués. Tu sais, au début, là... À tous les jours, c'était quand est-ce que maman revient, hein, ben à la maison, là. Mais au bout d'un mois, là, il se pose moins la question. Puis au bout de deux, trois mois, bon, elle revient à la maison les fins de semaine. Puis là, tu es obligé de te battre avec les petits pour les amener à l'hôpital parce que l'hôpital, c'est plate pour un enfant puis que leur mère, il la voit bien, tu sais, pas... Mon problème à l'époque
c'est
aussi
un réflexe,
majeur...
un réflexe de défense pour les enfants.
Oui, ben, tout à fait. Ouais. Mais mon problème majeur était aussi de... À partir du moment où on a su, trois mois avant son décès, qu'il n'y avait rien d'autre à faire que d'attendre le décès. Là, j'ai fini par dire, bon, OK, je fais quoi, moi, là, avec ces deux enfants-là? Moi, je veux bien comprendre, je veux bien admettre, mais on fait quoi avec deux enfants? Et là, les médecins à l'Hôtel Dieu de Sorel m'ont dit, bien, écoute, va rencontrer Sœur Cournoyer. Je dis, oh, monsieur, là, vous n'êtes pas tombé sur le bon gars. Moi, je veux pas d'aide d'une religieuse... Pour mes états d'âme, là, je veux savoir ce que je fais avec mes deux fils. c'est pas la même chose. Là. Ils ont dit non, 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 non. C'est une psy. Elle est religieuse par hasard, ça n'a rien à voir. Va t'asseoir avec elle. Et effectivement, elle m'a été d'un grand secours parce que c'est elle qui m'a montré le chemin. C'est elle qui m'a dit comment parler à mes gars, quoi dire, comment le dire, pour semer des petits cailloux. Là, de sorte que quand l'événement va arriver, c'est le jour où tu es obligé de dire à tes deux enfants, c'est parce qu'un moment est décédé, là, tu sais. Mais qu'un cerveau d'enfant, ça ne peut pas concevoir que sa mère peut mourir en bas âge, là, c'est. Mais quand tu sèmes des éléments d'information qui font en sorte que la journée où ça arrive, ils se disent, ben oui, évidemment, il y avait ça, 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 puis ça qui ne marchait pas.
Une fois que l'événement est arrivé, comment t'as témoigné, comment tu t'es débrouillé avec ta paternité? T'avais des principes d'éducation qui étaient naturels chez toi ou t'as pris ça ailleurs?
Pas facile
à dealer, là.
Non, non, je me suis joyeusement adapté, mais j'ai merci la vie. Tu me dis ça, puis ça me fait toujours venir à une remarque, une question que j'avais posée à Simon, mon fils le plus jeune. Tu sais, tu deviens, quand tu es le seul parent, tu deviens celui qui caresse et puis celui qui frappe à la fois. Là. Enfin, je les ai pas frappés, là, mais c'est une image. Puis je me souviens d'avoir demandé à Simon, mon fils le plus jeune, c'est quoi le souvenir que tu as de ta mère? Quand je te parle de ta mère, c'est la première chose que tu me dis, c'est quoi, là, quand je te parle d'elle? Sa réponse d'enfant de 11 ans, peut-être à l'époque, et ta fine, elle. Le souvenir qu'ils ont gardé d'elle, c'est évidemment, puis d'abord c'est vrai, c'était une femme patiente, souriante, intéressante, alors qui les aimait passionnément. Alors, elle m'avait tout simplement dit une bonne journée, puis sur le coup, ça m'avait mis un peu en maudit, en me disant, écoute, on sait où on s'en va, on sait ce qui nous attend, on sait juste pas quand ça va arriver, mais ça va arriver, on le sait, là. C'est généralisé, il n'y a plus rien à faire, puis je ne veux plus rien faire. Mais en même temps, je ne veux plus en parler. Je ne veux plus qu'on se questionne, je ne veux plus qu'on en parle, je ne veux plus qu'on... La seule chose que je te demande, c'est de faire attention pour choisir quelqu'un qui va faire attention aux enfants. Mais là, évidemment, là, voyons donc, toi, évidemment. Ça ne m'a pas causé de problème. Moi, j'ai trouvé ça tout à fait naturel de m'occuper des gars. Mon fils le plus vieux... Lui en a arraché pendant quelques années des cauchemars, etc. Mais, puis une adolescence, mais tu sais, il y a des enfants qui ont leur mère puis leur père qui ont une adolescence tout croche. Alors, mais il y a eu une adolescence...
Quel type de relation tu as maintenant avec tes deux fils?
Ah, on a une super de belle relation. En fait, je dis souvent que dans le cas de Marc-Étienne, qui a été mon cas problème d'ado, là, je dis... Tu sais, s'engueuler, puis ce qui est des bêtises, parfois, c'est aussi une façon de communiquer. Alors, on n'a jamais cessé de communiquer, finalement. Pas toujours de la bonne façon. Mais il fallait que je m'occupe de lui. C'est ce que j'ai compris. Puis ce que j'ai compris aussi, et Dieu merci, je l'ai eu d'instinct, c'est qu'il fallait pas que je lui ferme tous les chemins. Il fallait que, malgré son besoin de grande liberté, là, d'aller tout explorer, il fallait que, puis que je ne pouvais pas le laisser aller parce qu'il était trop jeune, il fallait quand même que je lui donne du lousse. Il fallait qu'il... Parce qu'à un moment donné, j'ai senti que s'il ne trouvait pas de porte de sortie, là, on allait avoir un problème. Alors j'ai dû... Regarde, mais merci. J'ai été longtemps à me dire... Enfin, longtemps. J'ai été un temps à me dire que j'avais... pas tout à fait été le père que j'aurais souhaité être. C'est bien possible. Mais j'ai été quand même, somme toute, un assez bon père pour que j'adore mes deux fils.
Est-ce que tu as été très...
On se voit souvent.
C'était très contrôlant avec eux?
Étonnamment, j'avais des gens dans ma famille, un de mes frères particulièrement, qui souvent me disait « Hey, donne-leur du lousse, là, franchement. Lâche-le un peu, là, tu sais. » Et eux, le souvenir qu'ils en ont maintenant, particulièrement mon fils Simon, qui a deux enfants, qui a deux petits gars, Simon me dit toujours, « Hey, on était bien avec toi. Tu nous donnais du lousse. » Ah oui, c'est bon. Vu de l'extérieur, certains trouvaient que j'étais trop sévère. Puis eux, ils l'ont vécu comme garde. Moi, j'ai un fils qui n'a pas assisté pendant plusieurs années à toutes les fêtes de Noël et du jour de l'an parce que ça y tentait pas. Puis que tout le monde me dit, « Comment ça fait qu'il n'est pas là? » Je dis, c'est parce que ça y tente pas, là. Regarde, moi, est-ce que vous avez le goût d'y voir la face quand il est en quelque part où il n'y a pas le goût d'être? Vous n'avez pas le goût d'y voir l'air dans ce temps-là. Puis c'est quelqu'un qui est très famille aujourd'hui, là, tu sais. C'est un enfant, enfin, c'est pas un enfant, mais je dis toujours c'est un enfant merveilleux. Là. Non, j'ai une belle relation avec mes gars, je suis content. J'aurais aimé ça avoir une fille. Peut-être qu'elle sera occupée de son père, tu sais, plus chouchoutée.
Coquin. Gilles Labelle, grand-père?
Deux fois.
Quand même.
Quand même, plus trois fois presque, dans le sens que ma blonde a une petite fille maintenant. Alors, je suis pas le grand-père, mais je suis grand-père quand même.
Non, mais...
Alors, non, mais écoute, d'autant plus qu'on avait dit à sa fille, à la fille de Judith, on veut une fille. Excuse-nous, là, mais fais ce qu'il y a à faire. Nous, on a des gars, on en a déjà, là. J'en ai deux, moi, là, deux petits gars.
Gilles, toi qui es un passionné comme moi de radio, tu as eu la carrière que tu as eue, tu as fait beaucoup de micros, tu as dirigé des postes de radio, bon, CIBL, Escoumin, ailleurs, bon. Comment tu perçois la radio de maintenant?
Elle est en région tout aussi intéressante et utile qu'elle l'était, et elle peut encore vivre très bien. Il y avait un texte encore ce matin dans la presse concernant la station de radio de Granby qui est devenue une coopérative. Je me souviens de chef Granby il y a des années où c'était en difficulté. Ça appartenait à Jessica à l'époque, etc. Maintenant, c'est une coopérative. Il y a une vingtaine d'employés et ils vont bien. La radio de Charlevoix est une radio qui se porte très bien. Là, les gens en région, la radio aux Escoumins où j'ai été... pendant plusieurs années, pendant 8 ans, en fait, se porte encore très bien aujourd'hui. La fille que j'avais engagée comme directrice des ventes et à qui j'ai demandé de prendre ma succession comme directrice de la station en 2006 est encore là en 2019. C'est une fille de la place, puis c'est encore elle qui dirige la station. La semaine passée, je ne sais pas de quoi on parlait, on s'écrivait sur Facebook, puis elle me disait « Moi, dans ma tête, t'es encore mon boss. »
Ah oui, ça reste. Hein.
Alors, ouais, la radio se porte bien, mais tu sais, le modèle de radio que j'ai vécu dans les dernières années de ma vie à temps plein en radio, c'est le modèle le plus difficile à faire vivre. Une radio communautaire urbaine. Une radio communautaire en région, c'est une radio régionale. Elles vivent très bien, aux Îles-de-la-Madeleine, écoute, en Gaspésie. Ces radios-là se portent très bien, là, tu sais. Mais la radio urbaine, c'est plus compliqué. Alors, puis communautaire urbaine, ben là, mais tu sais, Cogeco, 98.5 va bien, mais les autres stations un peu partout au Québec en arrachent, là. C'est pas facile. Puis la publicité, ben on le sait maintenant, c'est beaucoup...
L'Internet draine énormément.
Web.
Hein.
Alors, c'est plus compliqué que c'était, il n'y a pas de doute là-dessus, là. Mais ça n'a jamais été... Je dis que ça n'a jamais été facile, mais c'est pas vrai parce que dans les années 70, dans les premières années, entre 70 et 80, 85, les stations de radio vivaient joyeusement bien. Là.
Tu fais de la formation à l'occasion
pour des
gens de radio?
J'en ai fait beaucoup pendant plusieurs années. Ici, pour des stations de radio autochtones sur la Côte-Nord, pour le ministère de l'Éducation, j'ai même eu le bonheur, Dieu merci, la vie... d'avoir un contrat avec l'Université de Montréal pour aller donner de la formation en Afrique à deux reprises. Je suis allé à Bamako, au Mali, donner de la formation aux stations de radio de Bamako, stations de radio associatives, mais t'es station de radio, là, une antenne accrochée au coin de la maison. Et,
j'ai travaillé au même endroit.
Ah oui, là, c'est... Mais c'est des passionnés. Ce sont des passionnés, là. Oui, j'ai beaucoup aimé faire de la formation, puis je le faisais d'une façon naturelle aussi. Écoute, à CIBL, on avait 250 bénévoles, bon an, mal an. On a eu des salles de presse de 12, 15, 20 personnes. Alors, on donnait de la formation. Et combien de fois je suis descendu en studio pour dire à combien d'animateurs et à combien d'émissions que 1000, 10 000, 100 000, 20 000, c'était invariable. Que des 10 000 habitants, ça se pouvait pas. Alors, j'en ai fait de la formation.
Est-ce que les jeunes sont aussi acceptants des formations. J'ai l'impression des fois qu'ils ne sont pas du tout réceptifs.
C'est-à-dire que former comme on pouvait l'être nous et encadrer comme on l'a été, ça existe moins. Alors, ce qui fait que c'est, moi, je trouve que c'est possiblement très plaisant de donner de la formation parce que c'est des détails, on ajuste, mais on ne les encadre pas aussi rigoureusement qu'on le faisait. Et quand tu fais de la radio en radio communautaire comme à CIBL, ben écoute, là, tu prends le talent des gens tel qu'il est et tu essaies de l'améliorer le plus possible, mais dans les grandes lignes, mais tu laisses le naturel aller, là. Et la radio d'aujourd'hui est une radio beaucoup plus naturelle, je trouve, qui laisse aller le libre cours des gens. C'est moins... Avant, on s'inquiétait d'abord du format, puis de respecter les normes, puis Radio-Canada, le style, puis bon, c'est sûr que si tu avais le talent pour entrer dans le moule, tu pouvais exploser de talent dans le moule, là. Mais le moule est important. Alors, maintenant, il l'est moins, c'est plus libre, mais les jeunes veulent. Ce qu'ils veulent moins souvent, c'est aller faire un an à Mont-Laurier, tu sais. Ils veulent pas...
Est-ce qu'ils sont pas un peu rébarbatifs à tout ce qu'on a connu, nous, comme éthique de métier?
Oui, mais encore là, moi, je pense que le monde a changé aussi au niveau de l'éthique et la vie. Écoute, en même temps qu'il se dit des choses dont on n'aurait pas parlé, j'entendais Penelope McQuaid ce matin à Radio-Canada parler avec sa sexologue. Écoute, si tu avais dit ça, tout ce qui s'est dit là ce matin, il y a 20 ans, tu aurais eu un scandale sur les bras. Mais en même temps, tu lis parfois les journaux d'il y a 30 ans, 40 ans, et ils s'écrivaient des histoires dans les journaux. Il y avait des jugements sur les politiciens ou la politique, des éditoriaux où c'était assassin. Aujourd'hui, on n'utiliserait pas le tiers ou la moitié de ce langage-là. Moi, je trouve que les jeunes d'aujourd'hui, j'ai tellement vu de beaux talents en radio communautaire. J'ai tellement vu de gens extrêmement intelligents. Et j'ai vu des gens qui semblaient avoir peu de talent radiophonique, là, dans le sens de talent pur, mais qui avait de l'intelligence et de la curiosité. Alors, Jasmin Lavoie, qu'on entend à Radio-Canada actuellement, était quelqu'un qui, quand il est entré à CIBL, n'avait pas du tout le discours, la voix, le timbre et la diction pour faire ce métier-là. Mais ce garçon-là est d'une intelligence. Alors, il s'est développé et on lui demande moins aujourd'hui d'être un parfait, d'avoir une diction parfaite. Mais l'intelligence de son propos remplace et comble bien des lacunes.
Quand tu écoutes la radio de maintenant, Radio-Canada ou ailleurs, la radio communautaire, radio privée, as-tu le réflexe de les analyser, les juger et de penser « Oh, ils devraient faire ça comme ça, différemment, etc. »
Oui, je suis incapable d'écouter la radio comme les gens écoutent la radio. C'est impossible. J'entends ce qui se dit pas. J'entendais des entrevues ce matin là avec On l'a, puis plein de trucs. Et je me dis « Ouais, je peux pas ne pas les entendre, c'est impossible, là, tu sais. » Mais ça me dérange moins avec le temps, tu sais. J'ai appris à m'intéresser aux propos, puis à laisser tomber un peu. L'outil n'est pas parfait, là, loin de là, mais les gens peuvent être tellement intéressants.
Tu as rencontré quelqu'un de formidable avec qui tu t'entends très bien, avec un couple qui, visiblement, va durer pour... hein?
Écoute...
Ça a l'air à ça, en tout cas.
Comme je dis toujours, l'important, c'est pas... d'être le premier, c'est d'être le dernier.
Oui, c'est ça. Est-ce qu'il te reste avec elle des rêves à réaliser?
Ah, Judith et moi, on est ensemble depuis plus de 8 ans maintenant. On s'est connus par le web à la soixantaine.
Un outil. Agence de rencontre, là?
Non, pas agence de rencontre, mais site de rencontre, en ce sens que...
C'est quoi la différence?
Ben, c'est pas une agence, là, c'est un site, c'est pas une agence.
C'est pareil, ça fait la même chose.
Oui, ben oui, mais pour moi, agence, c'est un bureau, c'est une secrétaire, c'est non, okay. C'est par le web.
D'accord.
Bon, Et moi, je lisais, j'avais lu un texte dans la presse où il disait que tel site, je ne me souviens même pas du nom, c'était vraiment ça maintenant. Puis je disais, bon, ça fait quelques mois que je suis célibataire, je serait peut-être intéressant de rencontrer quelqu'un. Puis Judith voulait rencontrer quelqu'un avec qui elle aurait pu partager sa vie et non pas juste quelqu'un, un amoureux. Elle voulait vivre avec quelqu'un. Puis moi, j'ai toujours vécu avec quelqu'un. Alors, et elle cherchait quelqu'un de son domaine, radio, communication, etc. On s'est donné rendez-vous à Longueuil. Puis on est ensemble depuis ce temps-là. On vit ensemble depuis ce temps-là. Mais oui, on a plein de trucs encore. On aime, à la mesure de nos moyens, découvrir et voyager. Alors, puis on sait déjà 2-3 voyages d'avance, ce qui s'en vient, ce qu'on veut faire. Puis il y a des trucs qui sont niaiseuses un peu, dans le sens que les gens font ça il y a 30 ans, mais nous, on ne l'a pas fait, tu sais, genre, ah, OK, aller en Floride en auto. Moi, je ne l'ai jamais fait, elle non plus. On part le 27 décembre. Alors, on va le faire. Tu sais, moi, j'ai été longtemps à me dire, pendant des années, j'aimerais ça aller vivre 2-3 semaines à Paris. Pas d'auto, pas, juste vivre. On s'en va pas en vacances, là. On s'en va vivre à Paris. Comme on est travailleurs autonomes tous les deux, parfois, c'est difficile de quitter pour plus longtemps. Puis, il y a une question d'argent tout le temps là-dedans. Alors, on l'a fait, on l'a même fait 2 fois, aller vivre à Paris, etc. Alors oui, on aime voyager, on a des rêves, on a des petits-enfants. Judith, avec sa petite Adèle, est complètement gaga. Alors, on est en santé, on est amoureux et on est bien. Alors, touchons du bois, il faut que ça dure.
Comment vous gérez les irritants mutuels? Parce qu'il y en a toujours dans un couple.
Elle s'améliore de plus en plus.
Bon, je pense que je vais reposer ma question.
Non, mais oui, il y a des... On apprend à... C'est, comme dit mon ami Yves, c'est un poisson qui s'ouvrait par la gueule. Alors, on apprend, on sait qu'il y a des sujets sensibles, qu'il y a des périodes sensibles, qu'il y a des susceptibilités dans certains domaines. Alors, on apprend à respecter l'autre dans ces délicatesses-là. Alors, et généralement, moi, je trouve qu'on est mieux maintenant, 8 ans plus tard, qu'il y a quelques années. On est mieux.
Quand on forme un couple plus tard dans la vie, comme c'est ton cas, ça a été mon cas aussi, ouais. On s'engage aussi vis-à-vis de la famille de l'autre. Et à un certain âge, c'est moins évident de s'adapter à la famille de l'autre.
Oui, mais je suis quelqu'un qui s'adapte bien, moi, puis qui aime la famille de l'autre. J'ai eu de la peine déjà de quitter et la personne aimée, mais aussi beaucoup la famille de l'autre. J'ai eu des beaux-frères extraordinaires que ça me faisait de la peine de quitter, là, tu sais. Alors, je m'entends bien avec les siens et on s'aime bien, c'est un fait. Puis ça, non, je suis content, on est heureux.
Qu'est-ce que tu voudrais changer dans ta vie pour être encore un peu plus heureux?
L'épaisseur de mon compte de banque. Non, mais tu sais, écoute, je peux pas... Je suis bien, là. On est bien. Profitons-en. Alors, je fais encore une partie du métier que j'aime. Je fais encore du microphone. Je fais encore des trucs par rapport à ça. Je fais de l'écriture encore. J'aime ça aussi. Alors, on voyage tant qu'on peut. On est ensemble. On travaille ensemble parce que Judith aussi est narratrice. Alors, on fait souvent des contrats ensemble. Alors, on est bien. On se dit, bon, OK, on aime où on habite. Alors, on a des familles avec qui on est heureux. Ben oui, tu dis, ben OK, si, tu sais, animateur de radio, là, peut-être qu'à Radio-Canada...
Non. La réponse, c'est non à ce que tu vas dire.
Ben, alors, animateur de radio, garde, c'est ça la vie. Puis, animateur de radio avec 2 enfants, un seul salaire... Écoute, je me souviens, quand je suis allé travailler sur la Côte-Nord, quand j'ai eu ma paye, ma première paye, quand je suis allé travailler aux Escoumins, c'était la première fois depuis une vingtaine d'années, depuis que j'avais des enfants, en fait, que ma paye, là, c'était juste pour moi. J'avais pas de jeans à acheter, j'avais pas d'épicerie pour trois affaires, là, tu sais. Mon fils, Simon, qui allait au cégep Pontic à l'époque, nourrissait la moitié de sa classe le midi, même la maison chez nous. Ah, c'est parce que les gars, ben, ils viennent de... C'est contingenté, tu sais, puis ils viennent d'un peu partout au Québec. Ils arrivent le midi avec un sandwich, fait qu'ils disent « Ah, oh, je l'ai mangé à la maison, tu sais. » Oui, mais c'est parce que... trois jours plus tard, le garde-manger, puis le frigidaire est vide, là, tu sais. Excuse-moi, ton père... Alors... l'argent, c'est pas vrai que ça. J'en ai jamais manqué, puis c'est pas ça qui fait le bonheur. Mais tu dis, ah, bon, OK, si on en avait un petit peu plus, on voyagerait plus. Okay. C'est tout. Non. Pas du tout. Moi, j'aurais bien de la difficulté à identifier. Ah, des fois, j'ai tellement été impatient, je trouvais, avec les enfants quand ils étaient petits. Ça vient me chercher encore un peu. Je me dis, franchement. Puis, évidemment, ces enfants-là ont eu leur mère les 10 premières années de leur vie. Elle était fine, elle, comme dit Simon. Mais non, non, j'ai pas de regrets. Pas de regrets.
Merci, j'ai de la belle.
Ça m'a fait plaisir.
C'était L'Aventure, ici Robert Blondin, à la mise en onde de Jean-Sébastien Laliberté. À la semaine prochaine.